le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui on va parler des nouvelles politiques de Meta en matière de contenu qui risquent d'alimenter davantage de violences de masse et de génocide. En effet, les récentes annonces de Meta sur sa politique en matière de contenu constituent une grave menace pour des communautés vulnérables dans le monde et augmentent considérablement le risque que cette entreprise contribue à nouveau à des violences de masse et à des violations flagrantes des droits humains, comme elle l'a fait au Myanmar en 2017. La contribution significative de cette entreprise aux atrocités infligées au peuple Rohingya fait partie d'une nouvelle plainte de la part d'un lanceur d'alerte qui vient d'être déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, c'est-à-dire la Commission américaine des opérations de bourse. Le 7 janvier dernier, Mark Zuckerberg, qui est le fondateur et PDG de Meta, a annoncé une série de changements dans les politiques de contenu de Meta, visant manifestement à s'attirer les faveurs de la nouvelle administration Trump. Il s'agit notamment de la levée des interdictions sur les discours précédemment prohibés, tels que le dénigrement ou le harcèlement des minorités racisées. Mark Zuckerberg a également annoncé un changement radical dans les pratiques de modération des contenus, la modération automatisée étant considérablement réduite. Si ces changements ont d'abord été mis en œuvre aux États-Unis, Meta a indiqué qu'ils pourraient être étendus à l'échelle internationale. Ce changement marque un net recul par rapport aux engagements précédemment pris par l'entreprise en matière de gouvernance responsable des contenus. Amnesty International et d'autres organisations ont recueilli de nombreuses informations sur le fait que les algorithmes de Meta mettent en avant et amplifient certains contenus les plus préjudiciables, notamment les appels à la haine, la désinformation et les contenus incitant à la violence raciale, et tout ça c'est dans le but de maximiser la participation des utilisateurs et des utilisatrices, et bien sûr par extension, les profits. Des recherches ont montré que ces algorithmes amplifient systématiquement les contenus qui suscitent de fortes réactions émotionnelles, souvent au détriment des droits humains et de la sécurité. La suppression des garanties existantes en matière de contenu risque d'aggraver cette situation. Un ancien employé de Meta a récemment déclaré à Platformer, je cite, « Je pense qu'il s'agit d'un précurseur au génocide. Nous avons déjà vu cela se produire. La vie de personnes réelles va véritablement être mise en danger. » Cette déclaration fait écho aux mises en garde de plusieurs experts des droits humains qui ont exprimé leurs inquiétudes face au rôle de Meta dans l'incitation à des violences de masse dans des sociétés fragiles et touchées déjà par des conflits. Nous avons déjà été témoins des horribles conséquences de l'imprudence de Meta. En 2017, les forces de sécurité du Myanmar ont entrepris une campagne brutale de nettoyage ethnique contre les musulmans et musulmanes Rohingyas. Une commission d'enquête indépendante des Nations Unies a conclu en 2018 que le Myanmar avait commis un génocide. Au cours des années ayant précédé ces attaques, Facebook était devenu une caisse de résonance de la haine anti-Rohingyas. La diffusion massive de contenus déshumanisants contre les Rohingyas a jeté de l'huile sur le feu, entretenu par des discriminations menées de longue date et a contribué à créer un environnement propice à la violence de masse. En l'absence de garanties adaptées, les algorithmes toxiques de Facebook ont intensifié la tempête de haine contre les Rohingyas, ce qui a contribué à ces atrocités. Selon un rapport des Nations Unies, Facebook a contribué à la radicalisation des populations locales et à l'incitation à la violence contre les Rohingyas. Mais au lieu de tirer des enseignements de sa contribution inconsidérée à des violences de masse dans des pays tels que le Myanmar et l'Éthiopie par exemple, Meta supprime des protections importantes visant à empêcher que de tels préjudices ne se reproduisent. En adoptant ces changements, Meta a dans les faits déclaré ouverte la saison de la haine et du harcèlement contre les personnes les plus vulnérables et les plus exposées au risque, notamment les personnes transgenres, les migrantes et réfugiés. Meta affirme mettre en place ces changements pour faire avancer la liberté d'expression. Bon, s'il est vrai que Meta a restreint à tort des contenus légitime dans de nombreux cas, cet abandon radical des garanties existantes n'est pas la solution. L'entreprise doit adopter une approche équilibrée qui permette l'exercice de la liberté d'expression tout en protégeant les populations vulnérables. Toutes les entreprises, y compris Meta, ont clairement la responsabilité de respecter l'ensemble des droits humains conformément aux normes internationales en la matière. Les grands patrons milliardaires ne peuvent pas simplement sélectionner quels droits respecter tout en ignorant de manière flagrante les autres et en mettant en danger de cette manière les droits de millions de personnes. Une enquête lancée par Amnesty International en 2021 avait déjà révélé que Meta avait contribué de manière substantielle aux atrocités perpétrées contre les Rohingyas et que l'entreprise devait faire le nécessaire pour offrir un recours effectif à la communauté. Meta a cependant clairement indiqué qu'elle ne prendrait aucune mesure en ce sens. Les communautés Rohingyas, dont la plupart des membres ont été chassés de chez eux il y a 8 ans et résident toujours dans des camps de réfugiés tentaculaires au Bangladesh voisin, ont également demandé à Meta de remédier à la situation en finançant un projet éducatif dans les camps de réfugiés à hauteur $1 million états-uniens. Cette somme ne représente que 0,0007% des bénéfices de Meta en 2023, qui s'élève à $134 milliards. Malgré ça, Meta a rejeté cette demande. Ce refus illustre une fois de plus le manquement de l'entreprise à ses responsabilités, ainsi que son engagement à privilégier le profit au détriment de la dignité humaine. Alors ainsi, on a Maung Sawedola, désolé pour la prononciation, c'est une rescapée des atrocités commises contre les Rohingyas, qui est soutenue par Amnesty International, l'Open Society Justice Initiative et Victim Advocates International. Et ensemble, on a déposé le 23 janvier 2025 une plainte en tant que lanceur d'alerte auprès de la Securities and Exchange Commission, donc la commission américaine des opérations de bourse, la SEC. La plainte déposée souligne le fait que Meta n'a pas tenu compte des mises en garde de la société civile entre 2013 et 2017 concernant le rôle potentiel de Facebook dans l'alimentation de la violence. Nous demandons donc à la SEC d'enquêter sur Meta pour les violations présumées des lois sur les valeurs mobilières découlant des fausses déclarations de l'entreprise aux actionnaires concernant sa contribution aux atrocités subies par les Rohingyas en 2017. Entre 2015 et 2017, en fait, la direction de Meta a assuré aux actionnaires que les algorithmes de Facebook n'entraînaient pas de polarisation, alors que l'entreprise avait été avertie du rôle de Facebook dans la prolifération de contenus hostiles aux Rohingyas au Myanmar. Meta n'a pas pleinement révélé aux actionnaires les risques liés à ses activités au Myanmar. Au lieu de ça, en 2015 et en 2016, Meta s'est opposé à des propositions avancé par des actionnaires, notamment sur l'évaluation de l'impact sur les droits humains et la mise en place d'un comité interne chargé de superviser les politiques et les pratiques de l'entreprise concernant les questions publiques internationales, notamment les droits humains. Tandis que Mark Zuckerberg et d'autres PDG du secteur des technologies se rangent littéralement dans le cas de la récente investiture derrière les attaques de grande ampleur du nouveau gouvernement des États-Unis contre les droits humains, les actionnaires de Meta doivent se mobiliser et demander des comptes aux dirigeants de l'entreprise pour éviter que Meta ne devienne une fois de plus un vecteur de violence, de masse, voire de génocide. De même, les législateurs états-uniens doivent veiller à ce que la SEC conserve sa neutralité, enquête correctement sur les plaintes légitimes, comme celles que nous avons récemment déposées, et veille à ce que les auteurs présumés des violations des droits humains soient traduits bel et bien en justice. À l'échelle mondiale, les gouvernements et les organes régionaux tels que l'Union européenne doivent redoubler d'efforts pour obliger Meta et les autres grandes entreprises technologiques à rendre des comptes en ce qui concerne leur impact sur les droits humains. Comme on l'a dit précédemment, d'innombrables vies humaines pourraient être menacées si on laisse des entreprises comme Meta agir de manière incontrôlée. Puisque, comme on l'a vu pour le Myanmar, le risque de génocide est bien réel. Et en parlant de génocide, il y en a bel et bien un qui est en cours et qui est plus ou moins soutenu par l'Union européenne. Je veux bien sûr parler de la Palestine. Amnesty International demande depuis longtemps de cesser de soutenir ce génocide, l'occupation ainsi que l'apartheid israélien en Palestine et commencer à faire respecter réellement le droit international. Il faut savoir que le 24 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont accueilli Gideon Saar, donc le ministre israélien des Affaires étrangères à Bruxelles, à l'occasion du Conseil d'association Union européenne-Israël. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne que ses dirigeants et dirigeantes reçoivent le ministre des Affaires d'un État dont le premier ministre et l'ancien ministre de la Défense sont visés par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et dont l'armée est activement impliquée dans la commission de crimes de droit international, notamment le génocide. Selon Eve Gedi, qui est la directrice du Bureau européen d'Amnesty International, je cite, « Il est inadmissible que l'Union européenne déroule le tapis rouge pour le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, dont le supérieur, le premier ministre Benjamin Netanyahu, est recherché par la Cour pénale internationale. Les discussions sur les futures relations de l'Union européenne avec Israël devraient avant tout insister sur la nécessité de traduire en justice Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, devant la Cour pénale internationale pour leurs crimes présumés, ainsi que sur le respect des droits internationaux par Israël et la fin de l'apartheid. Les dirigeants et dirigeantes de l'Union européenne doivent faire passer leurs engagements en faveur du droit international, des droits humains et de la Cour pénale internationale avant des conférences diplomatiques soigneusement chorégraphiées par Israël. » Elle continue, en ces termes, je cite, « Le silence honteux de l'Union européenne face aux menaces pesant sur la Cour pénale internationale et l'absence de mesures d'atténuation concrètes qu'elle aurait déjà dû prendre en urgence après des sanctions choquantes annoncées par le président Donald Trump contre la Cour pénale internationale, donne la nette impression que l'Union européenne accorde la priorité à ses relations avec un gouvernement impliqué dans un génocide et des crimes de guerre, au lieu de soutenir une institution qui s'efforce d'établir les responsabilités individuelles pour ces crimes. Les dirigeants et dirigeantes de l'Union européenne devraient décider des mesures à prendre pour empêcher l'Union européenne de contribuer au génocide, à l'apartheid et à l'occupation illégale dont Israël se rend coupable, au lieu de faire comme si de rien n'était, pour une poignée de main diplomatique à Bruxelles. Bien que la Cour internationale de justice ait clairement indiqué qu'il incombe aux États tiers d'empêcher le commerce et les investissements qui contribuent au maintien de l'occupation illégale, l'Union européenne continue de commercer avec les colonies israéliennes et d'y investir. Pour plus d'informations sur le sujet, on peut se référer aux appels lancés par Amnesty International à l'Union européenne avec plus de 160 organisations de la société civile, et aussi dans notre lettre du 10 février exhortant les dirigeants et dirigeantes à tirer parti de cette réunion pour présenter à Israël des demandes claires dans le but de remédier aux graves violations du droit international commises par Israël, et de garantir justice et réparation pour les crimes relevant du droit international, tout en décrivant les conséquences pour les relations de l'Union européenne et Israël si aucune mesure n'est prise. Pour en savoir plus sur la notion de crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide, qui sont trois crimes qui sont condamnés par la Cour pénale internationale, je vous invite à vous rendre sur notre site amnestyinternational.fr pour bien comprendre la différence, parce que là, on parle vraiment de droit international. Il y a une vraie différence entre ces trois termes et donc ces trois condamnations, d'une certaine manière. Et Israël se rend coupable de plusieurs d'entre elles, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et la CPI, la Cour pénale internationale, recherche effectivement Benjamin Netanyahou pour deux d'entre eux, le crime de guerre et le crime contre l'humanité, et va peut-être s'intéresser au crime de génocide. En tout cas, c'est en cours en ce moment, puisque il semble que tous les critères soient réunis pour qualifier effectivement la situation en Palestine de génocide. Donc, encore une fois, pour avoir un peu plus d'éléments concrets sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur amnestyinternational.fr pour vraiment comprendre bien la différence entre ces trois termes et qu'est-ce qui caractérise réellement un génocide et pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot-là, parce qu'il a un vrai sens au niveau du droit international. C'est un terme de droit, c'est pas juste quelque chose qu'on peut dire sans aucune valeur finalement. Non, là ça a une vraie valeur, c'est un terme de droit international qui est caractérisé par plusieurs critères. Puisqu'un génocide, le crime de génocide en droit international, c'est un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme le meurtre de membres du groupe. L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Pour qu'il y ait génocide, il doit y avoir une intention avérée de la part des auteurs de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc c'est tout ce genre de critères qui caractérise le crime de génocide. Donc il a un réel sens et je vous encourage vraiment à aller chercher un peu plus de détails sur les définitions que ça peut avoir. Que ce soit sur notre site amnestyinternational.fr ou directement à la source sur le site des Nations Unies puisque le droit international ça vient quand même de là. Je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et je vous dis à la semaine prochaine.